continue dans la première lettre de Jean. Merci beaucoup, Gabriel, pour dimanche passé. C'était vraiment bon. Chapitre 2, verset 28. On va lire ensemble cette portion sur l'aspect d'être enfant de Dieu. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Fait que Seigneur, c'est la lecture de ta parole. Et toi seul peux illuminer nos cœurs, afin que ce ne soit pas juste de l'information, afin que ce ne soit pas juste de la stimulation intellectuelle. Quand tu parles, Seigneur, tu produis la vie en nous. Tu produis un vouloir profond. Par Saint-Esprit de Dieu, tu produis des désirs contraires à ceux de notre chair. Parce que notre chair peut produire aussi des désirs contraires à toi, Saint-Esprit de Dieu. Alors, on veut marcher dans tes désirs, désirant la vérité, désirant marcher dans la lumière, dans la vérité. Délivre-nous des ténèbres. Délivre-nous, Seigneur Dieu, du prince des ténèbres auquel tu es venu nous délivrer. Parce que c'est un menteur qui vomit dans la tête des gens. Fait que s'il vous plaît, Seigneur, surtout, on peut juste te supplier, mon Dieu. Le Québec est en train de sombrer profondément dans les ténèbres. Et tout le monde est à un battement de cœur d'entrer dans une éternité sombre. Et Jésus, tu l'as dit, toi, si on néglige un si grand salut, les gens vont s'en aller pour l'éternité dans un lieu de pleurs et de grincements de dents. Seigneur, s'il vous plaît, saisis-nous. Et comme Éric nous l'a rappelé, oui, il y a un grand défi dans notre vie ici. C'est la prospérité. Tu es généreux envers nous, mais malheureusement, beaucoup de gens veulent profiter de cette générosité au détriment de marcher avec toi. Comme si notre vie était plus importante que de marcher avec toi. Comme si tu étais le génie dans la bouteille pour répondre à nos besoins seulement. Si on est ici en ce moment, Seigneur, on est ici comme étant ton corps, tes membres. C'est toi la tête du corps. Afin que, comme le Père t'a envoyé pour sauver, tu nous envoies pour que tu continues à sauver ceux pour qui tu es mort à la croix. Fait que Seigneur, s'il vous plaît, exauce-nous, réveille-nous. Produis en nous un vouloir plus profond que ce que la chair peut produire. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, on voit ici que Jean nous rappelle que il dit maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Et donc, ça, c'est vraiment l'aspect le plus important. Parce que, n'oubliez pas, c'est vrai qu'on vit dans une partie du globe, contrairement à beaucoup d'autres places sur la planète, on vit dans une bulle prospère. Et puis, ça ne prend pas beaucoup de s'éloigner pour juste aller visiter un peu la planète. Je vous le dis, de plus en plus, la planète va sombrer à cause de toujours la cupidité de certains cupides qui veulent finalement devenir des héros nationaux. Beaucoup de gens vont souffrir. Mais il y a un danger. Souvent, le besoin pousse les gens à chercher la solution. Et c'est pour ça que le salut a toujours commencé d'abord quand Dieu nous a fait réaliser que notre péché était une horreur, une vulgarité profonde, qu'on était sale, qu'on arrête de s'admirer. Et s'il n'y a pas eu ça, ben, je suis désolé, la conversion de certaines personnes, des fois, est très superficielle. Moi, je suis surpris quand les gens disent « Non, non, moi, je n'ai pas à cœur d'annoncer l'Évangile. » Tu n'as pas à cœur d'annoncer l'Évangile? Calvin, est-ce que c'est que tu as dans ta tête du gras? Normalement, tu étais supposé avoir un cerveau. Tu ne comprends pas, finalement, qu'en dehors de l'œuvre de Christ, tout le monde est perdu, on est tous perdus, et que Dieu nous a manifesté son amour d'une manière incroyable, que la deuxième personne de la Trinité s'est incarnée en être humain, et le Seigneur Jésus-Christ nous a manifesté la bonté et la douceur de Dieu. Contrairement au petit boss des Bécos, il n'est pas né dans un palais, il n'est pas né admiré de tout le monde. Il nous avait même annoncé dans le prophète Ésaïe que quand il était pour venir sur la terre pour nous sauver, il était pour venir sans apparence. Contrairement à ce que tous les obsédés d'eux-mêmes veulent devenir admirables, veulent qu'on les adore, on tripe sur eux autres. Jésus-Christ est venu dans une humilité absolument spectaculaire. Quand vous réalisez, il est né finalement, lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui s'est incarné en être humain. Est-ce que vous réalisez que son premier petit lit, ça a été une mangeoire de bœuf et d'âne? Que son père, qui est un paysan du Nord, c'est un homme qui est habitué d'être méprisé par ceux du Sud, il a dû descendre vers le Sud parce que Bethléem, c'est juste à côté de Jérusalem. Il est descendu, finalement, il savait qu'il descendait dans une région qui était pour être méprisée par les gens du Sud. Mais vu qu'il était de la lignée de David, cette lignée qui était comme plus devenue glorieuse. Ce paysan descend avec sa femme. Il ne trouve pas de place à rester. Des gens ont été assez gentils en disant, « Regarde, où est-ce qu'on garde nos animaux? » Parce que souvent, en dessous des maisons, il y avait finalement une place pour les animaux. Et puis, ils ont dit, « Bien, regarde, on va tasser les animaux, et puis vous pouvez rester en bas. » Ils sont restés dans une place, parce que normalement, c'est les animaux qui restaient là. Et puis, quand Marie, elle a accouché, eh bien, Joseph, finalement, il a nettoyé la place où est-ce que normalement, on mettait la nourriture pour les animaux, et il a fait du mangeoir un lit pour le roi des rois. C'est pas beau, ça? Fait que, cherchez pas à être admiré. Suivons le Seigneur. C'est vraiment important parce que je vais vous dire une chose. Le poison le plus violent dans notre vie, là. OK, je sais que vous allez capoter tout le temps, là, parce que je n'aimais pas ça entendre ça, mais je vais vous le dire pareil. Là. Le poison le plus sale, le plus violent dans votre vie, c'est quoi? Comment? OK, l'orgueil, ça, c'est un fruit que ça fait. Mais plus profond que ça. La racine de ça, c'est quoi? Comment? La quoi? La paresse, c'est un autre fruit que ça fait. Moi, je veux frapper la racine, parce que si je frappe la racine, les fruits vont mourir. Savez-vous, c'est quoi la racine de l'orgueil, de la paresse, le mépris des autres? Plus que ça. C'est la justice propre. Parce que la justice propre, c'est toujours une forme de justice qui découle maintenant de la chute. Est-ce que vous vous rappelez Adam quand Dieu dit « As-tu mangé l'arbre que je t'avais défendu? » Qu'est-ce qu'il a répondu? La femme que toi t'as mis auprès de moi. Il s'est plaint comme une victime. Je sais qu'un jour, vous rencontrez Adam au ciel. Là. Je ne veux pas qu'il me donne une claque sur le museau, là, mais ce n'est pas grave. T'sais. J'ai le goût de dire, « Hey, bonhomme, ce n'est pas toi qui étais supposé te protéger de ta femme. C'est à toi que Dieu a parlé. Mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand ta femme est en train de se faire séduire par un serpent, sais-tu ce que tu aurais dû faire, Adam? Tu pognes une branche, tu la coupes, tu fais un bat de baseball et tu frappes la tête du serpent. » Et puis, à partir de ce moment-là, il est devenu honteux parce qu'il est devenu obsédé du même mensonge que le pourri dans l'atmosphère. Je sais qu'à un moment donné, quand je vais mourir, je vais passer à côté du malin parce que Jésus-Christ m'a sauvé de lui. Puis j'aimerais ça que le Seigneur me donne une roche que j'y tire ça dans le front, en chemin. Parce qu'il nous a donné son obsession. Lui-même, il veut être adoré. C'est un épais. Je veux juste vous rappeler que le Satan, là, le mot Satan, là, c'est un mot en hébreu qui veut juste dire ennemi. Notre ennemi, là, c'est un obsédé de lui-même. Il veut se prendre pour Dieu. Et c'est de ça qu'il nous a vomi dans la tête, qu'on se prenne pour des dieux, qu'on se prenne pour des originales de nous-mêmes. Je sais que ma femme a dit « Excite-toi pas, Jeffrey, arrête de t'énerver. » Mais il m'énerve. Parce que quand il vomit dans notre tête, ben, il nous rend finalement obsédés de nous-mêmes. Et la justice propre, on le voit, Adam, plutôt que de dire à Dieu, « T'as raison, j'ai échoué, je t'ai trahi, j'ai même pas protégé ma femme contre un serpent. Puis en plus, je te blâme de l'avoir donné et j'en ai fait un bouc émissaire. » C'est ça qu'il aurait dû dire, c'est ça la vérité, mais ce n'est pas ça qu'il a dit. Tout le monde essaie de couvrir leur... merde. Par une apparence de justice. Quand je dis ici que la vraie justice, ce n'est pas celle que tu te vantes. C'est celle dans laquelle on marche dans les œuvres du Seigneur. Parce que la vraie justice de Dieu, c'est celle que quand il nous demande de marcher avec lui... Toutes les œuvres qu'il nous demande de faire, si on les fait par la foi, c'est lui qui les justifie, les œuvres. Dieu n'est pas sous une justice qui le juge. Il est la justice. Est-ce que vous réalisez que puisque vous êtes sauvés par Jésus-Christ, vous qui vous êtes tournés vers le Seigneur, qui avez mis votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés, il est mort de nos péchés à la croix, eh bien, finalement... il a payé extrêmement cher. Puis je ne sais pas, je suis quand même content que le Seigneur, je le supplie de me réveiller, de me rendre sensible à lui, pour ne pas être insensible. Et puis, quand je pense à sa mort à la croix, quand je pense qu'il a été abandonné de tous ses amis qu'il a aimés, quand il a été battu, c'est lui qui avait le pouvoir. Jésus-Christ avait le pouvoir de claquer des doigts dit aux anges, détruit la planète. Les anges auraient fait, ça aurait été fini d'un coup. Mais il nous a aimés au point d'être humiliés, battus à mort, crucifiés sur la croix. Accepter la volonté de son Père, d'être crucifié sur du bois, publiquement devant tout le monde, humilié. Parce que souvent, tu sais, quand on voit des crucifiés, là, tu sais, Jésus a toujours un petit linge hein, pour se cacher, parce que c'est une manière pudique. Mais si vous étudiez vraiment le texte, il était tout nu, sa croix, devant tout le monde, battu à mort, tout nu, couronné d'épines, parce qu'on se moquait de lui comme étant roi, battu, abandonné tous, en train de mourir sur une croix pour être déclaré par Dieu, par la loi de Moïse, maudit de Dieu, de la malédiction qui va tomber sur tous ceux qui vont négliger un si grand salut. Moi, je sais pas, ça me bouleverse à toutes les fois quand j'y repense. Les larmes me viennent aux yeux. J'en reviens pas à quel point qu'il nous a aimés d'un amour incroyable. Puis je dis, écoute, Seigneur, je te supplie, Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui produis des désirs nouveaux, contraires à ceux de notre chair. Parce que dans notre chair, on veut toujours être important. On veut être aimé par ce qu'on fait. On veut être admiré. Ça, ça vient du malin. Parce que quand il t'a tenté dans le désert, le malin, tu te rappelles comment il a fini? Il a dit, tous les royaumes du monde me sont donnés. Parce que c'est lui qui stimule les royaumes du monde, tous les petits boss de Bécosse là, qui veulent toujours détruire d'autres pays pour devenir plus gros et plus importants. Tu comprends? Eh bien, finalement, il dit, agenouille-toi devant moi, adore-moi, puis je te donne. Je vais te donner les royaumes de ce monde. Le malin proposait à Jésus de recevoir les royaumes du monde sans crucifixion, sans humiliation. Adore-moi, puis c'est comme si Satan était pour y donner. Combien de gens sont prêts à s'agenouiller devant Satan pour devenir importants dans le monde afin qu'on les admire? Et ce n'est pas n'importe quoi. Jésus dit non, Dieu seul tu adoreras. Et puis il l'a vaincu dans le désert. Et donc, Paul nous rappelle une vérité fondamentale. Ayez pas peur de faire connaître tous vos besoins au Seigneur. Surtout, regardez bien, surtout de marcher avec lui. OK? Ayez pas peur de dire au Seigneur, je pense que ma chair a pris plus de place dans ma vie que ton esprit parce que je ne suis pas intéressé de me donner à toi, je ne suis pas intéressé d'organiser ma vie pour marcher avec toi. Tu sais, je veux me faire une vie à moi. Et si vous le faites connaître au Seigneur, votre besoin, bien, c'est le Saint-Esprit qui va produire en nous des désirs contraires à ceux de la chair. Faites attention, le test de la prospérité, c'est un test très dur à vaincre. Parce que ça te donne beaucoup d'impressions. Plus tu as des moyens, plus tu as l'impression que tu peux faire ce que tu veux, tu as les moyens de le faire. Pas vrai? Mais quand tu n'as pas de moyens, c'est facile de se tourner vers le Seigneur. Et il nous dit maintenant, petits enfants, est-ce que vous vous rappelez une scène vraiment intéressante, encore une fois, qui démontre, j'ai tellement hâte de voir Jésus pour vrai. Oui, il s'occupe de nous autres, puis qu'il est dans, il est une, en tout cas, pour moi et ma femme, il était d'une bonté incroyable, pas vrai? Moi, quand je le pense, il faut que j'aille marcher en haut, Carole, parce que les larmes me viennent aux yeux, puis j'aime pas ça avoir là, des sentiments devant toi là-dessus. Là, tu sais, j'aime pas ça. Parce que j'en reviens pas comment il s'est occupé de nous autres, comment, en plus, il nous a amenés dans son plan, dans ses œuvres à lui. Même moi puis toi, on ne savait même pas ce qu'on s'en allait dans la vie. Puis, tu sais, quand on se raconte ça dans un souper, là, les émotions me remontent. Puis, moi, j'aime pas ça montrer mes émotions. Je ne sais pas pourquoi, là, c'est comme ça. Tu sais. Fait que je me prenais tout seul en haut. Les larmes peuvent couler tout seul. Puis souvent, quand je suis assis, tu sais, quand ça coule, je ne sais pas, j'ai les yeux secs. Même tout à l'heure, dans les louanges, là, j'ai manqué de craquer. Ben, j'aime pas ça. Je vous demande pardon. Peut-être un moment donné, je vais venir avec des grosses lunettes de soleil. Mais je suis tellement touché de l'amour que le Seigneur nous a manifesté, parce qu'un jour, les mamans sont arrivées avec leur petit bébé. Vous vous rappelez de cette scène-là? Ils s'en viennent, puis ils veulent que Jésus, tu sais, touche leur petit bébé, les bénisse. Et puis, est-ce que vous vous rappelez ce que les disciples ont fait? Ils étaient en colère. Hey, on perd du temps. Hey, hey, en voulant dire, les enfants, c'est des insignifiants. Ça n'a pas d'intellectuel. Ça ne comprend rien. Hey, bye-bye! Tu sais, puis ils chassaient les madames. Jésus s'est énervé. Hey! Arrêtez! Tu sais, les gars, oui. Moi, ça devait être intéressant quand Jésus devait dire « Hey! » Pierre devait comme dire « Faut que j'aille aux toilettes. » dit « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Il dit « Parce que le royaume de Dieu, il est reçu comme ses enfants reçoivent. À moins que vous deveniez comme les petits-enfants. » Maintenant, est-ce que vous reconnaissez, c'est quoi la caractéristique d'un petit-enfant? Comment? Pas rien que crédule. Parce que même plus vieux, on peut être épais. Mais qu'est-ce qu'il y a de caractéristique d'un petit enfant? Est-ce que, par exemple, à Noël, est-ce que les enfants, quand on leur donne des cadeaux, ils vont dire « Oh non, non, non! » Sont-ils capables de recevoir les cadeaux? Tu sais, puis ils sont capables de dire « Y en a-tu un deuxième? Puis un troisième? » Puis ils sont jamais gênés non plus quand c'est le temps de souper. « Oh, papa, tu travailles, j'ose pas manger. Tu travailles tellement fort, c'est toi qui achètes là. » Non, ils sont capables de dire « Il n'y a rien à manger, ici. » Un enfant, ça a une capacité incroyable de vivre de la grâce de la famille. Un enfant vit totalement de ce qu'il reçoit. Il n'achète rien, il ne mérite rien. Et puis, il y a deux caractéristiques. Il est capable de recevoir sans aucun problème. Il est capable de faire connaître tous ses besoins à ses parents sans aucun complexe. Et puis, en même temps, quand il aime ses parents, qu'est-ce qui est caractéristique d'un enfant qui aime ses parents? Il démontre comment? Il est content de leur faire plaisir. Il répond à l'amour. C'est vraiment quelque chose d'important, ça. Un enfant pas aimé, là, il souffre énormément. Mais un enfant qui est aimé, il est comblé. Et puis, un de ses plus grands plaisirs après ça, c'est de pouvoir faire plaisir à ses parents parce qu'il les aime de l'amour dont il est aimé. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on soit. C'est pour ça qu'il nous appelle ici, et maintenant, petits-enfants. Dans le grec, c'est clair, ça ne se trompe pas. Petits-enfants, c'est techna. Techna, ça veut dire les tipoutes. C'est pour ça que ça représente un peu, tu sais, c'est pour les petits-enfants, ça. Et c'est pour ça qu'on va rester des petits-enfants dans cette vie et le Seigneur nous amène avec lui dans son œuvre. Et c'est pour ça que Paul va mettre l'Église de Galate, il va vraiment les protéger, puis même aussi les Colossiens, la même chose, parce que les judaïsants, trouvaient que les païens recevaient trop gratuitement la grâce de Dieu, pas assez méritant. Tu sais, vous mangez du cochon, puis vous êtes rien, vous êtes des païens, parce qu'oubliez pas, les Juifs avaient été mis à part pendant plus de 1500 ans de toutes les autres nations. Le but, c'était que les Juifs ne deviennent pas idolâtres. C'est pour ça que Dieu les avait séparés. Il ne les a pas mis dans un programme pour qu'ils soient sauvés par leurs œuvres. La loi de Dieu freinait le péché en Israël. Et deuxièmement, la loi leur rappelait à chaque année leur péché. Et à chaque année, quand ils célébraient la Pâque, ça leur rappelait une vérité fondamentale. Dieu les a sauvés de Pharaon par pure grâce, sans leurs œuvres, seulement par la foi. Ça, c'est vraiment important. L'illustration, finalement, comment Dieu a sauvé Israël du Pharaon, pure grâce. Parce que est-ce que vous pensez que les Juifs qui ont vécu pendant 400 ans en Égypte pratiquaient une religion? Même, vous lisez les psaumes, quand il rappelle l'histoire, quand il est sorti d'Égypte, il dit « Vous êtes sortis même avec des idoles égyptiens. » Ils sont devenus plus égyptiens. Mais ils se rappelaient peut-être juste l'histoire. « Ah oui, il paraît qu'Abraham, notre arrière-arrière-arrière-grand-père, Dieu il a fait une promesse qu'un jour, il va nous libérer. Il paraît dans 400 ans. » Et ils ne sont pas sauvés parce qu'ils sont meilleurs que les Égyptiens. Ils sont sauvés parce que Dieu les a appelés à être un peuple par lequel il va venir. Quand Dieu appelle, Romains 8, Paul nous rappelle, quand Dieu appelle quelqu'un, il le justifie. Et quand il justifie celui qui appelle, il le glorifie. Et c'est pour ça que c'est par Israël qu'on a été sauvés, comme Jésus le dit à la Samaritaine. Non, le salut vient des Juifs. Jésus vient de la chair des Juifs, de la lignée de David. C'est très important pour nous. Ce n'est pas le programme. Et c'est pour ça que quand les Juifs méprisaient les païens, ils voulaient les remettre sous le judaïsme. Et Paul a combattu ça violemment, parce que Paul était plus conscient que beaucoup de gens du danger de la justice propre. Pas pour rien qu'il dit, « Moi, là, j'étais un homme violent. J'étais un homme violent. » D'après vous, comment il est devenu violent, l'apôtre Paul? C'est pas juste qu'il y avait 2-3 neurones qui n'allaient pas bien dans son cerveau, là. Tu sais, il y a des pilules pour ça. Comment ça se fait qu'il était si violent, Paul, malgré son intelligence, sa discipline de vie incroyable? Comment ça se fait qu'il était si violent, au point qu'il a pris plaisir de voir ce qu'on a tué Étienne? Exactement, sa justice propre. Moi, je trouve ça de valeur qu'on appelle ça la justice propre, parce que c'est une justice sale. Mais c'est la justice personnelle. Lui, là, il était tellement discipliné. Il était tellement en contrôle de sa personne. Il était capable de jeûner comme il voulait. Il mémorisait les Écritures. C'était un homme avec une capacité intellectuelle hors norme, au point que non seulement il connaissait toute la religion, il était même pharisien parmi les pharisiens. Et puis, il connaissait même la culture des Grecs. Vous vous rappelez, quand il est arrivé à Athènes, il est capable de citer leur propre prophète. Puis, il est tellement intelligent, le gars, qu'il est capable de leur montrer le non-sens de leur propre croyance. Et puis, finalement, il rappelle juste une chose. Je vivais de ma justice. Et ça me donnait toujours de penser, puisque j'étais meilleur que les autres, que ça me permet de juger les autres. Et c'est pour ça que le Seigneur, quand il l'a arrêté en disant, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu t'acharnes contre ma grâce? » Parce que ça le choque, lui, la grâce. Les gens qui sont remplis d'eux-mêmes, là, ça les choque, la grâce de Dieu. Vous savez, la parole nous dit une chose. Nous sommes sauvés par pure grâce. OK? On est d'accord avec ça? De toute façon, que vous soyez d'accord ou non, les Écritures le disent. Massacre. OK? Mais... je veux juste qu'on se rappelle une chose. Paul nous rappelle, Dieu a mis toute la planète sous la condamnation. Tout le monde est condamné. Et si nous, on est sauvés, ce n'est pas que Dieu a pogné la crème. C'est que Dieu a décidé de faire grâce. Et je sais que ça choque tous ceux qui sont bourrés d'eux-mêmes dans leur tête. Je m'en sacre. Tenez. Parce que de toute façon, je remarque juste une caractéristique de ceux qui sont remplis d'eux-mêmes. Ils n'ont aucune compassion pour les autres. Ils ne vont pas organiser leur vie en fonction que d'autres gens entendent le seul message qui peut les sauver, l'Évangile. C'est vraiment vital. Je vous le dis, plus le Seigneur brise notre arrogance, notre orgueil de nous-mêmes, plus on reçoit, comme un enfant, sa grâce, petits enfants, mais plus... vous savez quoi? Plus vous allez regarder les gens qui ne sont pas sauvés, vous n'allez pas vous dire, hey, « Moi, je suis meilleur que lui, moi, j'ai cru. » N'oublie pas, chum. Il nous a fait une grâce de déchirer le voile. Il nous a... même j'aime beaucoup l'expression que Paul dit aux Galates, parce qu'il dit en passant, « Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, là, vous avez commencé selon l'esprit. Maintenant, vous les finissez selon la chair. » Si vous allez dans le programme des Juifs et que vous vous mettez sur un programme pour être meilleurs les uns contre les autres, soyez pas surpris à la fin que vous allez vous dévorer les uns les autres. Il connaît ce chemin-là, Paul, parce que lui-même a marché dans ce chemin-là. Lui-même a été un homme extrêmement violent. Il faisait partie de l'Inquisition en Israël. Il faisait mettre les Juifs qui avaient cru en Jésus en prison. Puis à cette époque-là, si on te mettait en prison, il y a des bonnes chances que tu ne survives pas de la prison. Mais quand le Seigneur l'a arrêté, Paul a été complètement brisé. Et le Seigneur l'a laissé pendant 3 jours de temps dans les ténèbres. Il est devenu aveugle pendant 3 jours de temps. Pour y rappeler en disant, et il a vu sa condamnation. Il a vu qu'il était digne d'être perdu. Et c'est pour ça qu'il est devenu le défenseur le plus fort de tous les apôtres. le défenseur le plus fort de la grâce de Dieu. Et ça a ruiné sa vie. Ce gars-là, il ne s'est pas converti pour être plus heureux que les autres. Est-ce que vous vous rappelez, même à un moment donné, il est tellement brisé, il est tellement épuisé. Quand il est arrivé à Corinthe, là, le Seigneur, il est tellement bon avant Dieu. Il sonde les cœurs, il connaît. Il sait que Paul est brisé, il est vidé. Parce qu'à toutes les fois qu'il va prêcher l'Évangile, il va se faire battre. Parce qu'il sait qu'il va parler aux gens qui ne veulent pas entendre parler de la grâce de Dieu. Ils veulent entendre parler, « Moi, je mérite, moi, je mérite, moi, je suis merveilleux. » Il va dire, « Non, non, t'es sale, t'es perdu. Jésus-Christ est venu sauver ce qui est perdu. » Et ça, il se faisait battre. Même une fois, il s'est fait lapider. On l'a laissé comme mort. Puis je ne suis pas sûr, mais quand il parle aux Corinthiens, qui étaient malheureusement des gens que Paul leur dit, « Vous êtes immatures. » Pourtant, c'est de valeur. Parce que quand on lit la première lettre et la deuxième lettre aux Corinthiens, est-ce que vous remarquez que les Corinthiens étaient très instruits? Mais il leur dit, « Faites attention. » Juste de l'instruction, 1 Corinthiens 8, ça enfle la tête. C'est l'amour qui édifie. Mais comment on va aimer, c'est si vous avez découvert de quel genre d'amour Dieu vous aime. Il vous aime-tu parce que vous méritez d'être aimé? Non, il nous aime parce qu'on était perdus, puis Dieu a une manifestation de compassion incroyable envers nous. Il a pitié de nous autres, il nous aime vraiment. Et c'est pour ça que finalement, il faut demander, parce qu'on peut s'endormir. On peut finalement être séduit. Le malin rôde pour nous vomir dans la tête. Tiens, pour mettre du gras dans notre tête. Demandez à tous les jours, comme des petits-enfants, « Papa, rappelle-moi que tu m'aimes. Sur quelle base tu m'aimes? » Et Dieu va nous montrer à quel point il nous aime parce que lui est amour. Et il dit, « Vous allez vous aimer les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Recevez-vous comme Christ vous a reçu. » Donc, c'est un type d'amour pas méritoire. C'est un type d'amour qui fait que tout ce que Dieu va te donner, ce n'est pas pour que tu sois capable de mépriser ton frère qui en a moins que toi. Plus tu en as, plus tu vas être capable de servir, pour aider pour vrai. Ça, c'est vital. C'est pour ça qu'il leur dit, écoutez, vous savez qu'il est juste et reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Et c'est pour ça que finalement, qu'est-ce qui nous permet de faire du mal? Ça fait plus de 40 ans que je suis pasteur. Fait que j'en ai entendu des histoires, plein d'histoires. Puis les histoires, souvent quand les gens ont fait des choses, je me rappelle une fois, un gars était venu me voir. Moi, je vais divorcer ma femme parce que j'en ai trouvé un autre plus le fun. Qu'est-ce que tu fais là, toi, là? Non, non, non. Moi, c'est la volonté de Dieu parce que moi, je vais être heureux parce que ma femme est trop ordinaire, elle est fade. Je ne voulais pas m'énerver, tu sais, pour y imposer les mains dans la face, là. Mais je dis, fais là, toi, là. Non, non, je mérite une meilleure femme que ça. J'en revenais pas. Il l'a divorcé. Puis il était avec une autre. Puis en plus, il me disait, c'est la volonté de Dieu. Non seulement, en plus, tu fais un adultère, puis en plus, tu blasphèmes. Il m'a donné un conseil. Si tu veux marcher pas dans la volonté de Dieu, dans le péché, garde-toi au moins de blasphémer, parce que tu vas manger une claque sa gueule de la part du Seigneur dans pas grand temps, tu vas voir. Il est mort. Le gars est mort. Quelques années plus tard. Il est mort très jeune, soudainement. On ne se moque pas de Dieu. Jean est en train de faire le contraste en disant, vous êtes des petits-enfants. Un petit enfant reçoit tout de ses parents. Et si on aime nos parents, c'est parce qu'ils nous aiment. Pas vrai? Si on parle, c'est parce qu'ils nous ont parlé. Imaginez un enfant là, qui n'a jamais entendu une parole de sa vie qui est née. Pensez-vous qu'il va se mettre à parler tout seul? Non, il parle parce qu'on lui a parlé. Et puis, un enfant vit énormément de limitations. C'est pour ça qu'on a hérité énormément de nos familles. Non, c'est vrai, ça a l'air de rien, mais quand Paul va dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ », eh bien, il est capable de leur dire « Regardez, j'ai appris, j'ai lâché le, comment je pourrais dire, le narcissique chronique que j'étais, qui s'admirait lui-même et qui mettait Dieu en dette envers moi en tant que pharisien, et j'ai appris à imiter Christ. Et quand Dieu s'est fait chair, il a laissé sa gloire, et Jésus lui-même le dit, « Je ne fais rien par moi-même. » Jésus faisait rien par lui-même. Imaginez-vous Dieu éternel qui se fait chair, il vient comme nous, il se limite comme nous. Il va dépendre de son Père. Il va prier son Père. Il attend. Il va apprendre l'obéissance jusqu'à la mort. Donc, moi, je supplie le Seigneur. Écoute, Seigneur, s'il vous plaît. Tu sais que la religion, quand on se met dans un petit programme de religion, on a le don, finalement, des fois, de se ramasser des petites choses. Puis on aime ça parler de ce qu'on a fait, nous. C'est toi qui nous as amenés dans ton œuvre. Et c'est pour ça que, on a parlé souvent ensemble, tu sais, sur le balcon. Là. Le Seigneur permet, des fois, que des gens nous claquent le museau, hein, qui nous fait du tort. Et puis, c'est le fun, parce que c'est comme un petit test. Il t'envoie ton petit bulletin pour voir ton égo, il est rendu où. Puis moi, quand mon égo commence à enfler un peu trop, tu sais, il permet régulièrement que des têtes à claques arrivent. Et puis, tu es obligé de t'humilier devant le Seigneur en disant, « Pourquoi j'ai goût de me venger? J'ai goût de faire du tort. » Je te demande pardon. Je te demande pardon, puis je te demande une chose. Réveille-moi de ta grâce, s'il vous plaît, parce que je veux apprendre à marcher avec toi, Seigneur Jésus. Et ça, c'est vital. C'est la seule chose qui nous renouvelle sans arrêt. Parce que comme il dit, passage important ici, il dit, regardez, il dit, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » C'est facile de s'éloigner du Seigneur. Je rends grâce à Dieu que beaucoup d'entre vous, on se connaît quasiment depuis des années qu'on a marché avec le Seigneur. Faites attention, le malin rôde pour essayer de stimuler votre justice propre pour qu'un jour, vous abandonniez le Seigneur de marcher avec lui. C'est très dangereux, ça. Beaucoup d'enfants de Dieu ont commencé selon l'Esprit, ont été l'objet de la grâce de Dieu d'une manière incroyable. Ils étaient très reconnaissants. Et tranquillement, ils ont commencé à parler d'eux-mêmes, 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 d'eux-mêmes. Et puis, quelques années plus tard, ils ne marchent plus avec le Seigneur. Au contraire, ils s'amusent même à parler contre les églises, contre les chrétiens. Paul le dit. Faites attention, vous avez commencé selon l'esprit, finissez pas selon la chair. Finir selon la chair, c'est pas compliqué de voir si on est dans la chair. Jusqu'à quel point vous êtes devenu arrogant de vous-même? Est-ce qu'on est comme le Seigneur Jésus? Jésus dit, « Je suis doux et humble de cœur. » Là, il parle en tant qu'être humain, pas en tant que Dieu. En tant que Dieu, il est glorieux. Mais quand il parle en être humain, il dit, « Je suis doux et humble de cœur. » Le seul moyen de rester comme ça, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Parce que même si on le fait par nous-mêmes, on est fiers de le faire. Tu sais, vous avez déjà entendu des gens qui disent « Oh, je suis tellement fier d'être humble. » Ça ne tient pas à route bien, cette affaire-là. Tu sais. Donc, on peut juste dire au Seigneur « Sans toi, on ne peut rien faire, mais par toi, on peut tout faire. Par toi, on peut tout faire ta volonté. Fait que je vais te faire connaître tous mes besoins et puis merci de me combler. » Et c'est pour ça qu'avec Eric, c'est le fun parce que quand on s'est rencontrés au camp, là, hein, tu te rappelles? Ça fait, je te dis, depuis le début de l'été, que souvent je me promène chez nous puis je prie le Seigneur, je demande une seule chose. Seigneur, notre Église, le Québec surtout, parce que moi je suis tourmenté de voir comment le gouvernement est maintenant à genoux devant finalement tout l'esprit de Sodome et Gomorre. Tu sais, au point là, que le gouvernement fait la même chose qu'il faisait il y a 50 ans, mais c'est un nouveau parti qui a pris le pouvoir. Maintenant, je dis, Seigneur, on est dû pour un vrai réveil, pas juste des églises qui grossissent. Un réveil, Seigneur, parce que les gens sont à un battement de cœur de s'en aller dans l'éternité. Puis à toutes les fois que je vois dans le journal quelqu'un qui est mort, je dis, wow, il est où, là? Il est où en ce moment? Tu sais? Fait que je priais, on est dû pour un réveil, mais avant que tu réveilles le Québec, tu peux-tu nous réveiller nous autres? Parce que même nous autres, on s'est endormis. Réveille-nous. Moi, le premier, Seigneur, réveille-moi. Réveille-moi parce que, je ne sais pas, j'ai commencé à penser plus à moi dernièrement. Tu sais, je sors moins, j'organise moins ma vie, envie de sortir. C'est sûr que la COVID que j'ai pognée en chemin, là, elle me donne le goût de me coucher le soir à 7h30, 8h. Tu sais. Je ne sais pas pourquoi, là, je suis resté toujours fatigué de même. Là, tu sais. Puis, c'est sûr que ça ne me tente pas de m'en aller vite en Haïti, parce que je me suis dit, bon, tant qu'à me faire tuer, là, tu sais, je me souviens de mourir ici. Là. Je dis, Seigneur, j'aimerais ça mourir chez nous, même pas à l'hôpital. Tu peux-tu me faire mourir vite? Bing! T'sais? Fait que si jamais je m'en vais ailleurs, si je dois mourir, arrange-toi qu'un gars pointe sa carabine et me tire dans la tête tout de suite. Bing! Pow! Pow! Ça va être fini. T'sais? Je veux pas que ça te... Ça veut... Tu sais que je suis peureux de toute façon? Puis tu sais que j'aime pas ça souffrir. Fait que une petite vite. Puis j'ai un de mes amis qui me dit, « Hey Jeff, quand est-ce que tu vas venir me donner un coup de main? » Parce que je suis dans un pays, c'est un pays musulman. Il dit, là, si jamais on se fait pogner, tu vas être en prison. Puis même, il y a des gangs de rue là-bas, tu sais. C'était le fun parce que c'est ça qui me soumet à prier pour un réveil. Puis quand Éric vient me voir, il dit, hey, moi, j'ai vraiment à cœur qu'on prie pour un réveil. Hey, tu confirmes une prière que je fais depuis tout l'été. Je capotais bien raide, j'étais tellement content. Venez juste ceux qui veulent. Ceux qui ne veulent pas, restez chez vous, OK? Sacrez-nous patience. Regardez la TV niaiseuse, là, puis allez aux toilettes, OK? Mais venez pas. Mais, il disait, quand j'étais à l'île de Malte, c'est là que j'ai rencontré mon ami, là, qui est dans un pays dangereux en ce moment, et puis j'ai rencontré des gros colosses, tu sais, là-bas, puis je dis, « Hey, t'es chrétien? »« Ouais, 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 tu sais. » »« Non, j'étais musulman avant, puis dans tel pays. » Avant d'être musulman, moi, là, j'ai malheureusement brûlé des villages. J'ai attaqué des chrétiens. J'en ai tué. Ah oh, oui. T'es chrétien, là, hein? Ah oh, oui, oui, oui. J'ai dit, mais là, c'est pas, moi, j'ai pas peur d'évangéliser. Je m'en fous de mourir. T'sais, il a vraiment connu le Seigneur. Puis il dit, il m'a raconté une histoire incroyable. Il y a une jeune femme, tu sais, qui finalement a prié le matin, elle lisait sa Bible en cachette, parce que c'est dangereux dans ces pays-là. Puis le gouvernement valorise que ces gens-là, au nom de leur religion, de tuer les chrétiens. Le gouvernement ferme des églises, met des gars en prison. Et puis, finalement, il dit, cette jeune femme-là, un matin, le Seigneur, il le met à cœur, parce que quand elle prenait l'autobus pour aller travailler, elle voyait toujours un imam rentrer dans l'autobus, très zélé, habillé avec une tunique blanche, puis toute l'affaire, tu sais, zélé, tu sais. Fait que le Seigneur avait à cœur, tu vas lui donner une Bible. Elle capotait bien raide, elle pleurait, Seigneur, non, 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 tu sais, puis elle a tardé. Puis à chaque matin, elle disait ça, ça revenait, puis ça revenait, ça revenait. Puis là, elle m'a dit, OK, OK. Un jour, elle part dans l'autobus, elle avait amené une petite Bible, tu sais. Elle voit le monsieur rentrer. Elle se lève. Elle risque sa vie. Surtout dans ces pays-là, les femmes sont considérées comme des subalternes. Ça fait qu'elle dit, OK, Seigneur, je le fais à cause de toi. OK, je vais t'obéir au secours. Elle se lève. Le gars me dit, elle s'en va donner la Bible au gars. Le monsieur reçoit la Bible. Il se met à pleurer. La madame, OK, elle va se rasseoir. Puis le gars se met à pleurer, puis elle dit, pourquoi vous pleurez? Non, ça fait 2-3 jours que quand je me lève le matin, j'ai comme toujours le même rêve. C'est Jésus qui me dit, m'a donné ma parole. C'est moi qui sauve. Puis, tu sais, le Seigneur faisait, tu sais, puis il dit, beaucoup en Algérie, puis dans certaines montagnes, des gens sont en train de se tourner vers Christ par des visions, par, tu sais, comme si le Seigneur intervient lui-même. Le gars, il est complètement bouleversé, il dit, je suis prêt à aller en prison, m'a prêché Christ. Parce qu'il m'a dit, une de mes enfants va venir te donner une Bible. Et le gars était complètement bouleversé. C'est pour ça que Abdel, mon ami, il me dit, quand est-ce que tu vas venir faire un tour, Jeff? C'est pour ça que je vais voir le Seigneur régulièrement en disant, Seigneur, tu te rappelles comment tu... Job, il dit, tu nous as tissés. Tu sais, quand je regarde ma femme faire des bas à ses petits-enfants, elle fait du tricotage. Puis Dieu, il paraît qu'il nous a tricotés dans le ventre, tu sais, de notre mère. Je dis, Seigneur, tu as échappé une maille, hein? Tu as oublié de me rendre courageux. Je suis un chieux chronique. Tu regardes. De toute façon, Paul dit, c'est pour moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bon, ben, aide-moi à faire ta volonté. Faites connaître tous vos besoins au Seigneur. Ça marche? On n'a pas besoin ici des gens qui sont des petits boss de bécosse, des gens qui sont fiers d'eux-mêmes en disant, « Ah, l'Église doit être fière de me recevoir. » Et puis finalement, demandons au Seigneur que c'est quand on se rassemble ensemble, là, on ne s'en vient pas pour un show. OK? On s'en vient pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ qui lui-même a dit, puis contrairement à nous autres, il n'est pas menteur. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, vu que c'est la fin du monde qui peut arriver. Venez à l'Église pour rencontrer le Seigneur, pas pour voir toujours l'évaluation des gens, ainsi de suite, là, t'sais. Rencontrez le Seigneur. Demandez au Seigneur des questions. Ayez un jardin secret entre vous et le Seigneur. Et plus vous allez découvrir que le Seigneur est au milieu de nous, vous allez découvrir autre chose. Vous allez découvrir que c'est sa justification qui fait qu'on peut être ensemble. Ce n'est pas parce qu'on est les meilleurs du monde. OK? Fait que je vais arrêter de vous écœurer avec ça, là. Mais c'est pour ça qu'il dit ici, plus on va connaître le Seigneur, plus on va marcher dans sa grâce, plus on marche dans son amour, il nous aime d'une manière, pas parce qu'on le mérite. Est-ce que vous réalisez l'amour que Dieu donne aux parents? Tu sais, un petit bébé, là, quand ça naît, là, tu sais, il y a des gens qui disent, « Comment tu as dormi hier soir? » « Oh, comme un petit bébé. » Un petit bébé, ça se réveille à chaque heure, puis ça broille. Et puis, un petit enfant... C'est inconscient de lui et c'est surtout inconscient de ses parents. Tu sais, un petit bébé, le naissant, ne va pas dire à sa mère, hey, « Je suis désolé, je t'ai réveillé cette nuit. J'ai juste 4 mois, là, mais... » Dieu nous aime comme il l'a manifesté par nos propres parents. C'est pour ça qu'il nous appelle « petits-enfants ». Je suis votre père. Un père et une mère, ça l'aime ses enfants de manière pas normale. Tu sais, on s'occupe d'eux autres. Et est-ce que c'est le fun de voir nos petits-enfants la première fois nous regarder et faire un petit sourire? Tu te rappelles, Carole, tu sais, Naomi était toute petite poulette de rien, là, tu sais. Ouais, t'étais, quand t'es née, t'étais pas grosse, là, tu sais. Et puis, je me rappelle, à un moment donné, je te regardais, puis t'as fait un petit sourire. Puis ta mère a dit, non, elle rit pas pour toi. C'est ses gaz. Bien, t'avais pas pété. Mais les premières fois que les enfants sont capables de dire « Maman, papa », les deux sont à demander « Qui est le premier que tu vas appeler? » Fait que c'est le fun parce que si vous voulez que vos petits-enfants vous appellent, dites toujours « c'est papa qui est là, c'est papa, allô bébé, c'est papa, c'est papa, c'est papa, c'est papa. » Ils apprennent par imitation. Et c'est pour ça que Dieu nous dit « Fais-moi connaître tes besoins », pas parce qu'il n'est pas au courant. Il dit, fais-moi connaître tes besoins pour que je veux que tu puisses voir comment je m'occupe de toi. Je veux que tu sois conscient que je t'aime d'un amour incroyable. C'est le fun parce que quand on se prend en Gaspésie, je regarde toujours l'océan, puis je dis, Seigneur, tu dis que ton amour là, tu sais, est immense. Je ne serais pas capable de vider cet océan-là. Fait que Seigneur, rappelle-moi tous les jours comment tu nous aimes. Parce que c'est ça, ton amour, qui m'a poussé depuis que tu m'as ramené ici au Québec, puis j'avais peur, j'étais tout seul, mais tu m'as coaché, tu m'as donné une femme gentille, encore gentille. Et puis finalement, on a fait un team ensemble, et tu nous as amenés dans plein de choses. On était toujours sur la route, on faisait des études bibliques partout dans le Québec, puis tu sais, sortir l'Évangile, pour moi, c'était le but. Faire la formation de disciples, pour moi, là, c'était pas juste vous rendre heureux. Je sais qu'il y a beaucoup de mes ennemis qui me disent « Jeff, c'est un méchant. » Ben écoutez, je suis méchant. Je vous dis. C'est. Moi, mon but là, de faire des formations de disciples, là, c'est pas que vous soyez tellement beau que les gens se mettent à genoux devant vous. C'est qu'en réalité, On soit tellement gagné par l'amour de Dieu que le Seigneur dit, regarde, vous êtes maintenant devenu lumière dans le monde. Ce n'est pas qu'on produit par nous-mêmes la lumière. Quand il dit, vous êtes le sel du monde, est-ce que vous savez ce que ça veut dire quand Jésus a dit, vous êtes le sel du monde? Comment? Bon, c'est vrai que ça donne de la soif, le sel. Là. C'est vrai que le sel conserve aussi. Là. C'est vrai. Mais selon la parole de Dieu, à quoi il sert le sel? Comment? Il dit, tu vas toujours m'offrir toutes tes offrandes salées, du sel. Lévitique 2,13. Tu dis, Seigneur, quoi, tu mangeais-tu salé? Non, parce qu'il dit tout de suite après, car le sel, mettre le sel sur l'offrande, est le signe de l'alliance. C'est un rappel que Dieu s'était engagé, a fait alliance pour nous sauver. Le sel, c'est pour ça qu'il a dit à Israël, vous êtes le sel du monde, mais si le sel perd sa saveur, si vous-même vous ne croyez pas à l'alliance que j'ai faite, nous, les chrétiens, à plus forte raison, Paul dit quand vous parlez, que votre langage soit assaisonné de sel. Ce n'est pas que tu te promènes avec une salière avant de parler. Tu comprends? C'est que, rappelons-nous, on est finalement l'objet de ce que Jésus a dit, comme Jérémie l'a prophétisé, « Je suis celui qui fait la nouvelle alliance éternelle. » Il a tout accompli. Tout est réglé maintenant. Tout est accompli. Et la justice de Dieu est non seulement en nous maintenant, mais tous nos péchés ont été mis en lui. Et c'est pour ça qu'il est mort. Mais il est ressuscité pour montrer que la dette est payée. Et maintenant, on est le sel. Mais si on perd la saveur du sel, si on est là puis on n'est plus, je ne sais pas, Seigneur, au secours, si on n'est plus complètement bouleversé par l'amour que Dieu nous a aimé, par pure grâce, on ne va pas s'occuper des gens qui périssent dehors. On va toujours juste organiser mieux une vie pour nous-mêmes, pour moi, que je sois plus heureux. Parce que le Seigneur m'avait montré, tu sais, parce que je disais, Seigneur, je suis timide, j'ai peur. Puis le Seigneur m'a montré pourquoi j'étais peureux. C'est que je m'aimais tellement au détriment des gens. J'étais prêt à laisser crever les autres pour que moi, je sois plus heureux. Quand il m'a montré ça, là, j'en ai pleuré. J'en revenais pas. Il m'a laissé périr tout mon quartier parce que je ne veux pas me faire écœurer par personne. Je te demande pardon, Seigneur. C'est vrai, je suis un maudit lâche à la marde qui vit juste pour moi-même, pour mon bonheur personnel. OK. Je vais sortir. Je sais que je suis peureux, moi, y aller pareil. Puis, je me rappelle, je suis sorti de mon laboratoire de photo parce que là, je me cachais chez nous. Là, ma mère me voit sortir. Tu t'en vas où? Je dis, bon, voici la première personne qui m'attaque à tous les jours. Là. M'en va annoncer l'Évangile. Elle s'est mise à crier. Je ne veux pas en entendre parler. M'en sac, m'en. M'en parler pareil, m'en t'écœuré quand même. Bye bye. M'en va me promener de voir. Puis je me suis promené dans le quartier à tous les jours. Tu te rappelles, quand on s'est rencontrés, je vous disais à toi et ta soeur, m'en allé me promener, prier pour moi. M'en allé me promener dans le quartier, annoncer l'Évangile. Tout ce qui bougeait. Puis, si je demandais au Seigneur, regarde, même tes apôtres t'ont demandé un jour, donne-nous la hardiesse, donne-nous le courage. Bon, ben, gars, si les autres te l'ont demandé, je peux te le demander. Et puis, le Seigneur me l'a donné. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. Je ne sais pas ce qui m'a saisi. C'est comme si ça a été plus fort que moi jusqu'à aujourd'hui. Demander. Nous sommes des enfants. OK? Je veux juste qu'on finisse le message avec ça. Mes petits-enfants. On est des petits-enfants. Les enfants, ils ont juste une chose à faire dans la vie. Demandez. Et vous recevrez. Demandez le courage. Demandez d'être conscient. Demandez finalement que le Seigneur verse en nous l'amour qu'il y a pour nous afin que cet amour-là nous amène vers les autres. Afin qu'on ne soit pas simplement une église humaniste. Comprenez? Fait que Seigneur, si j'ai été trop loin, je te demande pardon. Mais j'aimerais qu'on aille beaucoup plus loin. S'il vous plaît, Seigneur. Merci de bénir Pasteur Sylvain qui s'en va à l'Église de la Trinité pour les encourager. Et que tous ensemble, toutes les églises, Seigneur Dieu, qu'on arrête d'être des petits compétiteurs, qu'on essaie de toujours parler contre les autres églises pour se vanter d'être meilleur que les autres. Au contraire, il y a juste un corps de Christ, afin que, Seigneur Dieu, on puisse au contraire retrouver l'amour que tu nous as donné. Tu dis, recevez-vous comme je vous ai reçu. Tu ne nous as pas reçus parce qu'on était si aimables que ça. Seigneur, tu nous as sauvés par pure grâce. S'il vous plaît, que ta grâce nous inonde et que personne ici se prive de te demander, surtout s'ils n'ont pas le goût de marcher avec toi, qu'ils viennent te le dire. Seigneur, je suis rempli de toutes sortes d'autres idées dans ma tête. Je n'ai pas le goût de marcher avec toi. Je veux plus regarder la télévision. Je veux plus, tu sais. Fait que Seigneur, toi là, Saint-Esprit de Dieu, il n'y a rien d'impossible pour toi. Tu peux produire en nous des désirs qui sont complètement contraires à ceux de notre chair. Fait que c'est tout à toi que je le demande. Je ne demande même pas aux gens de se mettre sur un programme. Je te demande de nous réveiller, Seigneur. Car quand tu nous réveilles, on n'est plus les mêmes. Fait que Seigneur Jésus, tu es la tête du corps. Pour toi, là, il n'y a rien d'impossible parce que notre Père, parce que c'est comme ça que tu nous as dit d'appeler ton Père, notre Père, à cause de toi, Seigneur Jésus, eh bien, notre Père t'a donné à toi, Seigneur Jésus, tout pouvoir dans le ciel comme sur la terre. Et à plus forte raison, puisqu'on est ton corps, vivifie-nous. Seigneur, s'il vous plaît, redonne-nous ta force et surtout ta joie, parce que ta joie, la joie du Seigneur, c'est notre force. Et ta reconnaissance va faire qu'on va avoir compassion vers ceux du dehors et on va vouloir sortir l'Évangile, autant avec les déjeuners de l'espoir, ou encore une fois avec la pièce de théâtre, ou aussi dans nos familles, que nos enfants, on puisse leur montrer comment nous, on marche avec toi, Seigneur. Comment on s'attend à toi pour que ça ne soit pas juste une petite religion ou un moralisme qu'on fait dans nos maisons envers nos enfants, qui nous voient marcher avec toi, qu'on les amène avec nous dans les œuvres que tu prépares, afin que nos enfants te découvrent, Seigneur. Ça ne soit pas juste une religion, s'il vous plaît, Père. Moi, je suis déchiré dans mon cœur. Je te le demande au nom de Jésus, Père. Je ne te le demande pas au nom de ma justice, je te le demande au nom de la justice de Christ. Glorifie ton Fils, Seigneur, Père Tout-Puissant. Glorifie Jésus, car c'est le seul nom donné aux hommes par lequel on peut être sauvé. Alors, merci d'avance. Et que personne ici ne se prive. Si quelqu'un n'est pas sauvé, qu'il se tourne vers toi pour, tu l'as dit, demander et vous recevrez. Seigneur, accorde la repentance et la vraie foi en toi. Que personne ne se fasse à croire qu'il est sauvé s'il marche dans les ténèbres. Au contraire, s'il vous plaît, Père, réveille-nous tous. Vivifie-nous. Et que ton amour nous envahisse tous, afin que notre communion fraternelle soit sincère et honnête les uns envers les autres. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Pasteur Sylvain, que le Seigneur te bénisse. T'envoie donner l'église là-bas, là, c'est super. Dieu vous bénisse tout le monde.